Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, la Sainte Église aujourd'hui, dans l'Évangile du jour, nous parle d'un miracle de notre Seigneur Jésus-Christ qui va guérir un paralytique. Et comme vous le savez, je l'ai souvent dit, le bon Dieu va utiliser des choses matérielles que les gens peuvent vraiment voir, pour signifier quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose de surnaturel, quelque chose de spirituel qui est toujours beaucoup plus important. Donc derrière cette paralysie physique, notre Seigneur Jésus-Christ désigne une paralysie spirituelle, évidemment bien plus importante. Et c'est surtout contre celle-là qu'il faut réagir. Et bon Dieu leur donne un message, et nous donne un message en disant, si je suis capable de guérir une paralysie physique, sachez que je suis aussi capable de guérir une paralysie spirituelle. Et s'il est important pour cette personne qui est malade devant moi d'être guérie physiquement, il est bien plus important pour une âme qui est malade de venir à notre Seigneur Jésus-Christ et demander la guérison de la paralysie spirituelle. Alors qu'est-ce que représente justement cette paralysie? La paralysie, c'est une impossibilité évidemment corporelle de se déplacer, d'agir. Personne paralysée a ses muscles comme mort, comme éteint, ne peut plus rien faire par lui-même, il dépend donc totalement du voisin, du prochain. Eh bien, les pères disent que la paralysie représente la paresse, tout simplement. La paresse qui nous empêche justement, à cause justement d'une propension, en quelque sorte, à rester attaché aux choses d'ici-bas, qui nous empêche de nous élever vers le ciel. Un peu comme un oiseau qui ne peut pas voler parce qu'il a un fil à la patte. C'est ça la paresse. Et il faut comprendre que la paresse et tous les péchés qui en découlent, beaucoup de péchés dépendent de la paresse, viennent de la paresse. Cette paresse vient en fait d'une blessure, d'une des quatre blessures du péché originel. C'est surtout la blessure qui va affecter l'irascible. L'irascible, c'est un pouvoir qu'on a dans notre âme qui nous permet de lutter contre les obstacles. Dès que quelqu'un veut suivre notre Seigneur Jésus-Christ, dès que quelqu'un se met sur la route qui mène vers le ciel, il faut être sûr que le démon n'est pas content, il va s'en mêler. Le démon ne va pas laisser les gens monter vers le ciel sans essayer justement de les empêcher de s'élever. Et donc il va s'en mêler, le monde va s'en mêler, la faiblesse, notre propre faiblesse va aussi s'en mêler, et donc tout le monde s'en mêle pour nous empêcher de monter vers le ciel. Et donc, l'irascible est en quelque sorte une espèce d'adrénaline spirituelle qui nous est donnée pour nous aider à vaincre les obstacles, à dépasser ces obstacles, sauter par-dessus pour continuer le chemin. Eh bien, vous le savez, le péché originel va détruire la grâce sanctifiante. Et même après le baptême, les quatre puissances de l'âme vont rester affectées, ce qu'on appelle des blessures. Eh bien, l'irascible va être blessé par une blessure qu'on appelle la blessure de faiblesse. La blessure de faiblesse, c'est précisément cette blessure qui va nous entraîner à la tiédeur d'abord, première étape, et deuxièmement, après la tiédeur, à la paresse. Et notre Seigneur, comme vous le savez, n'aime pas beaucoup les gens tièdes. Il en parle dans son évangile. Exactement, il en parle dans l'Apocalypse, à la fin de la Sainte Bible. Il dit, parce que vous n'êtes ni tiède, ni froid, ni chaud, mais tiède, je vous vomirai de ma bouche. C'est vrai que la tiédeur spirituelle qui entraîne cette paresse spirituelle, cette paralysie spirituelle, est certainement un des plus grands obstacles à la sanctification. D'autant plus que la paresse spirituelle est quelque chose de très discret, donc c'est quelque chose qui ne se voit pas très bien, au moins au début, et souvent on considère cela comme quelque chose de tout à fait insignifiant, on s'en occupe pas. Comme quelqu'un, si vous voyez, qui commencerait à sentir en lui une certaine gêne musculaire, certains muscles fonctionnent moins bien, certains mouvements deviennent plus difficiles, il ne s'en préoccupe pas. Puis il laisse les choses se dégrader, puis finalement, quand il ne peut plus bouger, il va appeler le médecin pour voir ce qui se passe, c'est trop tard, il est complètement paralysé jusqu'à la fin de ses jours. La même chose sur le plan spirituel. Alors si on est bien, chers frères, de voir un peu comment fonctionne cette paresse spirituelle et quelles sont ces paresses dont notre Seigneur Jésus-Christ nous parle aujourd'hui. La première paresse, évidemment, c'est la paresse de l'âme, paresse spirituelle. On appelle ça l'acédie. L'acédie, c'est une tendance, si vous voulez, à ne pas considérer les choses spirituelles comme des choses importantes. Et n'oubliez jamais, bien chers frères, qu'il y a un signe qui nous indique que l'appareil spirituel est à la porte. Ce signe, c'est le dégoût de la prière. Quand quelqu'un commence à se dégoûter de la prière, c'est le signe que la sédie est à la porte. Elle va rentrer dans la mort. Et le dégoût de la prière, s'il n'est pas contrait, si ce dégoût n'est pas contrait très rapidement, eh bien, elle va devenir de plus en plus importante. C'est comme si vous avez une petite faille dans un mur qui n'est pas traité, alors l'eau va pénétrer dans la faille, le gel va faire écarter les pierres, et petit à petit, la fissure devient plus grande, et si on ne s'est pas occupé de cette fissure dès le début, la fissure, bien sûr, très vite va devenir irréparable. Malheur à celui donc qui laisse le dégoût de la prière rentrer en lui. Une comparaison toute simple, mais imaginez quelqu'un qui a simplement le dégoût de manger. Il ne veut plus manger parce que c'est le dégoût, ça n'intéresse plus de manger. Eh bien, cette personne ne fait pas attention, ça semble quelque chose de pas très grave d'avoir un dégoût de la nourriture. Mais si quelqu'un a un dégoût de la nourriture et ne s'en occupe pas, il va finir par plus manger du tout, il meurt. Il va devenir de plus en plus faible, il va finir par mourir. Alors, mes bien chers frères, il faut demander au bon Dieu cette grâce de savoir lutter contre la sédie. La sédie, donc, est la continuation, si vous voulez, de ce dégoût spirituel. Le dégoût de la prière entraîne la sédie spirituelle, une espèce d'anémie spirituelle. Il y a quelqu'un anémie, il peut encore fonctionner à peu près correctement, mais il se fatigue tout de suite, il n'a pas de force, pas de résistance aux attaques extérieures. De la même façon, quelqu'un qui est tombé dans la sédie et quelqu'un qui, se décourageant tout de suite, sera absolument incapable de lutter contre les tentations extérieures, et si le démon les multiplie, à ce moment-là, cette personne va se décourager complètement. Donc le dégoût entraîne la sédie va entraîner au désespoir le plus complet. Le manque d'espérance d'abord, le désespoir le plus complet, et le désespoir le plus complet entraîne évidemment à des catastrophes. N'oublions pas que l'Église classe parmi les péchés contre le Saint-Esprit le désespoir de son propre salut. Le désespoir de son propre salut, c'est une situation spirituelle qui devient autre. Si j'ai laissé justement cette assédie rentrer dans mon âme, ce dégoût rentrer dans mon âme, ce désespoir rentrer dans mon âme, et quelqu'un qui est dans une situation de dégoût de son propre salut, de désespoir de son propre salut, se place dans une situation dans laquelle il ne peut plus, humainement parlant, rien faire. C'est pour ça que saint Paul dit que les péchés contre le Saint-Esprit ne sont pas rémissibles ici-bas. Ça veut dire que tant que je reste dans cette situation-là, évidemment, je ne peux pas faire grand-chose pour me sauver. Alors, comment lutter contre cette assédie spirituelle? Comment lutter contre ce dégoût spirituel? Mais la solution, mes chers frères, elle est très simple. La solution consiste dans ce qu'on appelle la vie intérieure. Dégoût spirituel, c'est en quelque sorte un corps qui s'anémie. Et donc la vie spirituelle va détruire cette anémie, va remonter en quelque sorte le moral spirituel de ce corps, de cette âme qui est de plus en plus malade. Et donc c'est la vie spirituelle qui va lutter contre qui va détruire l'anémie. Et quelle partie surtout dans la vie spirituelle? Surtout l'oraison, l'esprit d'oraison. Quelqu'un qui fait oraison tous les jours aura bien sûr des moments difficiles, et quelqu'un qui fait oraison tous les jours est quelqu'un qui tombera jamais dans le découragement le plus complet. Parce que justement, l'oraison, ça a quand même une espèce de filet qui va le rattraper dans sa chute. Voilà pourquoi l'oraison est tellement importante. Ceux qui ont fait les exercices saint-ignatiens savent à quel point l'oraison est importante. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas encore fait les exercices. Pour ça, je vous conseille fortement tous de suivre les exercices saint-ignatiens, de venir ici pour suivre les exercices saint-ignatiens, afin justement que vous appreniez à méditer. Quelqu'un qui sait méditer, qui a compris l'importance de l'oraison, ce qu'on appelle la vie d'oraison, et quelqu'un qui sera surnaturellement armé pour lutter contre ce dégoût spirituel, contre cette anémie spirituelle, contre cette tiédeur qui amène à la mort spirituelle. Si tous nos fidèles faisaient garder régulièrement leur demi-heure d'oraison tous les jours, je vous assure qu'il n'y aurait pas beaucoup de découragement parmi nos fidèles. Et un religieux doit même garder beaucoup plus, tous les gens qui ici... veulent rentrer dans la petite communauté ici, religieuse, de la Pia Unio de Saint-Ignace, je demande justement une heure de méditation tous les jours. Monseigneur Lefebvre nous le demandait déjà au séminaire, il imposait une demi-heure le matin, mais il nous conseillait beaucoup d'avoir une deuxième demi-heure. Justement pour avoir cette force spirituelle, n'oublions pas que nous ne vivons plus au Moyen-Âge, mes bien chers frères. Au Moyen-Âge, je l'ai souvent dit, il était possible de se sauver avec un petit minimum. Parce que l'ambiance générale était catholique, parce que l'atmosphère générale autour de nous était catholique. C'est fini tout ça, malheureusement. Et donc, puisque nous vivons dans un monde, si vous voulez, qui est pratiquement totalement aux mains du démon, mais il faut augmenter la vie de raison afin que cette raison nous maintienne la tête hors de l'eau. Cette raison nous oblige à lever les yeux vers le ciel pour voir les belles choses du ciel et oublier toutes les horreurs de ce monde. Quelqu'un qui ne fait pas raison, c'est quelqu'un qui est toujours les yeux baissés vers les horreurs de ce monde, qui évidemment, voyant toutes ces laideurs, toutes ces horreurs, se décourage complètement. Quelqu'un qui fait raison au contraire, quelqu'un qui tous les jours s'oblige à lever les yeux vers le ciel, à ce moment il voit les beautés du ciel, les beautés du paradis où le bon Dieu l'attend, et à ce moment-là, se maintient, si vous voulez, dans son effort de s'élever, de s'arracher à la boue du péché, à la boue de la vie ici-bas, pour monter vers le ciel. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, cette vie de raison est tellement importante. La deuxième assédie, une deuxième forme, si vous voulez, de paresse, c'est la paresse intellectuelle, qui souvent travaille avec la première. D'abord, une paresse de l'âme, la sédie, qui va souvent entraîner une paresse intellectuelle, un dégoût d'utiliser son intelligence. L'intelligence a pour objet formel le vrai, et le démon, évidemment, qui ne veut pas que nous atteignions le vrai, va tout faire pour nous empêcher d'utiliser normalement notre intelligence. Donc, va mettre sur le chemin de notre intelligence toute une série d'obstacles pour nous empêcher de l'utiliser normalement. En général, ça se passe sur le plan philosophique en détruisant dans l'âme de cette personne qu'il veut détruire les premiers principes, surtout le principe d'identité et le principe de non-contradiction et le principe de causalité. Alors, mes chers frères, pour lutter contre ce dégoût, si vous voulez, ce dégoût des choses intellectuelles, il faut justement se rapprocher du bon Dieu, encore une fois, pour savoir et apprendre à utiliser normalement notre intelligence. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui, intellectuellement parlant, ne veut plus utiliser son intelligence pour monter vers le bon Dieu. Parce que moi, il coupe en quelque sorte la corde qui le relie à Dieu. Vous allez me dire, mais comment peut-on lutter contre cette paresse, cette assédie intellectuelle ? On lutte contre l'assédie intellectuelle par l'étude. D'où la nécessité absolue de l'étude. L'étude est comme le carburant qui va permettre à notre intelligence de rester droite. Imaginez un véhicule qui cherche à fonctionner sans mettre du carburant dans le réservoir. Évidemment, le moteur va s'éteindre, s'arrêter. C'est la même chose sur le plan spirituel. L'étude est donc non pas quelque chose de facultatif, l'étude est absolument nécessaire pour garder l'usage normal de notre intelligence. Donc quelqu'un qui se dégoûte sur le plan spirituel va très vite se dégoûter aussi sur le plan intellectuel, et l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un qui ne se préoccupe pas de garder son intelligence en bon état de marche va petit à petit perdre l'usage normal des facultés de son âme. Il va même perdre le goût de la prière, d'où la nécessité de l'étude. L'étude intellectuelle n'est pas quelque chose de facultatif, bien cher frère. C'est une condition sine qua non pour rester en vie tout simplement sur le plan intellectuel. Donc il y a le devoir grave d'utiliser, de protéger notre intelligence. Malheur à celui qui laisse le monde envahir son intelligence, détruire tous les principes même par lesquels l'intelligence peut fonctionner, qui évidemment va finir par perdre l'envie d'étudier. Le dégoût spirituel a comme parallèle un dégoût de l'intelligence, un dégoût de chercher tout simplement à être un dégoût de chercher le vrai. On est dégoûté par le principe même de l'étude du vrai. Et ça, c'est des indices de mort spirituelle extrêmement profonds. Alors, mes bien chers frères, si j'ai un conseil à vous donner aussi sur ce plan-là, c'est de vous obliger, vous imposer un temps d'étude toutes les semaines. Je pense qu'une heure par semaine me semble un petit minimum pour arriver à garder notre intelligence, encore une fois, en état de marche normale. Donc étudiez, mes bien chers frères, prenez le temps d'étudier pas simplement les grands livres spirituels, bien sûr, il faut alimenter aussi sur nos raisons avec une bonne lecture spirituelle, c'est évident, mais aussi de connaître nos ennemis. Il faut connaître nos ennemis pour pouvoir lutter contre eux. Parce qu'un chef d'armée veut diriger son armée pour protéger le pays contre l'ennemi qui attaque ce pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par s'asseoir, étudier les forces en présence. Il va étudier l'armée ennemie pour essayer de voir comment l'armée ennemie se bat, quelles sont les idées des chefs militaires de cette armée, comment en général ils se protègent, quels sont leurs plans d'attaque, etc., pour essayer de les contrer. Imaginez un chef d'armée qui se batte contre qui part à l'assaut de l'ennemi sans même se préoccuper de vérifier d'abord comment l'ennemi travaille ordinairement. Il va se perdre, c'est la même chose sur le plan intellectuel, mes bien chers frères. D'où la nécessité absolue pour nous justement d'avoir cet amour de l'étude. De la même façon, si vous voulez, que quelqu'un qui a dégoût de la vie spirituelle est en train de tomber dans l'ascétisme spirituel, de la même façon, quelqu'un qui a un dégoût de l'étude est quelqu'un qui va finir aussi par tomber dans une ascétie intellectuelle, un dégoût, un refus d'utiliser son intelligence pour connaître le bien. Alors, mes bien chers frères, étudiez, prenez la volonté, prenez la décision d'étudier au moins une heure par semaine. Il faut le faire, c'est absolument nécessaire pour garder son intelligence en bon état de marche. Il y a toute une série de livres qui sont parus. M. Saguio, par les éditions CRMI, vous donne tout ça à portée de main. Donc, n'hésitez pas à lui demander conseil dans ce domaine pour que justement il puisse vous aider par le choix de ses livres à étudier pour protéger votre intelligence. Il faut connaître, par exemple, les grands auteurs anti-libéraux du 19e siècle qui sont tellement importants pour nous. Il faut avoir lu Mgr Gaume, il faut avoir lu Mgr de Ségur, il faut avoir lu Mgr l'abbé Barbier, il faut avoir lu Don Guéranger, avoir lu au moins une partie de tous ces grands auteurs qui avaient justement des grâces particulières pour protéger l'Église, protéger l'usage de notre intelligence. Il y a plusieurs livres qui sont, à mon avis, absolument fondamentaux pour nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, pour nous protéger notre intelligence et protéger également nos familles. Alors, mes chers frères, demandons ces grâces, de savoir lutter d'abord contre l'ascédie intellectuelle et également de savoir lutter contre l'ascédie spirituelle, les deux. La troisième forme d'ascédie, de paresse, c'est une paresse d'ordre moral cette fois-ci. D'ordre moral. Donc, dégoût de la prière, dégoût de l'intelligence, de chercher le vrai, et aussi dégoût moral, dégoût tout simplement une perte de l'amour qu'on doit avoir pour rester en état de grâce, tout simplement. Et là aussi, c'est une forme d'ascédie qui est extrêmement dangereuse. Une espèce de paresse morale, on ne cherche plus à rester en état de grâce, on se laisse traîner un petit peu comme les gens du monde moderne, un peu comme ceux qui pratiquent la politique du cadavre au fil de l'eau. Alors comment lutter contre ça? Pour lutter contre la paresse spirituelle, il faut, mes bien chers frères, impérativement l'esprit d'oraison. Pour lutter contre la paresse intellectuelle, il faut l'étude. Pour lutter contre la paresse d'ordre moral, il faut la confession. La confession et la Sainte Communion. C'est par la Sainte Confession, c'est par l'accusation humble et volontaire de nos péchés que nous pouvons ouvrir les portes de nos âmes, mettre un peu d'huile sur les gonds de la porte de l'âme qui sont peut-être un petit peu rouillées, qui s'ouvrent mal, pour que justement le bon Dieu puisse rentrer dans nos âmes. Quand nous avons en nous une espèce de dégoût justement de l'état de grâce, un dégoût de tout simplement aimer le bon Dieu, on se sent fatigué de l'aimer, qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut tout simplement s'approcher du confessionnal et dire au bon Dieu, à son ministre, « Seigneur, pardonnez-moi parce que j'ai péché. » Comme ce paralytique de l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour le guérir, mais il est venu pour le guérir parce que le paralytique a su envoyer des gens qui étaient autour de lui, aller chercher le maître, cherchez-le, je l'entends qu'il passe dans la rue, allez chercher-le, demandez-lui de venir à moi. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu au pied du paralytique et voyant la misère du paralytique, va lui pardonner tous ses péchés. Allez en paix, vos péchés sont pardonnés. Et non seulement va lui pardonner ses péchés, mais va aussi lui rendre le salut du corps, il va pouvoir de nouveau marcher. Alors bien, chers frères, sachons utiliser ce sacrement de pénitence, sachons nous approcher avec humilité du sacrement de pénitence, tout simplement pouvoir nous approcher du bon Dieu. approcher du bon Dieu qui par sa communion demande, la communion justement ne demande qu'une seule chose, c'est rentrer dans nos âmes pour envahir nos âmes. Et c'est cette communion fréquente, ces confessions fréquentes qui vont nous aider à lutter contre la tristesse, contre la confusion, contre l'obscurité de l'âme, contre l'attraction vers les choses laides, vers les choses d'ici-bas, vers les choses terrestres. Lutter aussi contre toute tentation de mauvais esprit, tentation de dégoût, tout simplement de faire son devoir d'étendre. Voilà ce qu'il nous faut demander, mes bien chers frères. Nous demanderons ces grâces, surtout par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Elle est celle qui, à la porte de nos âmes, nous aide justement par ses conseils en tant que Mère de Dieu. Elle nous aide pour justement vérifier à ce que nous gardions la porte de notre âme toute grande ouverte et bien ornée pour que notre Seigneur Jésus-Christ qui passe dans la rue devant l'âme soit tenté et envie de pénétrer dans cette âme et venir nous aider. Si nous laissons la porte de notre âme toute envahie par les ronces, eh bien, évidemment, le bon Dieu ne pourra pas rentrer. Notre Sainte Vierge Marie est celle qui, à la porte de notre âme, nous aide à déblayer le terrain, à nettoyer la porte, à nettoyer l'entrée pour que tout soit beau et propre. Que notre Seigneur Jésus-Christ a envie de rentrer dans notre âme par la confession pour se donner à nous par la Sainte Communion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.